On vient de sonner, on est d'accord. C'est attends, regarde là, qu'est-ce qui vient de sonner? C'est Cyril Collet, CPR Asset Management. On lui dit de venir pour le club à 17h. Bah, venez, venez, Cyril, allez-y, venez. Bienvenue. Cyril Collet est un peu en avance. C'est notre invité décalé. Notre invité décalé, il a un coup d'avance. On vous avait dit de venir à 17h, vous arrivez avec 11 minutes d'avance. Vous êtes comme ça, vous.
Voilà. Je voulais vous parler d'un sujet un peu sympa.
Sujet grave, au point.
Non, pas grave, sympathique.
Simis, sur le plateau de BFM Bourse et BFM Business. On est ravis de vous accueillir, Cyril. Alors, justement, on va profiter du fait que vous soyez un petit peu en avance, avant que les autres invités n'arrivent dans quelques minutes, pour peut-être se parler plus intimement. Ça vous dérange pas?
Allons-y.
On se confesse?
Allons-y, on se confesse.
On peut se faire du bien ou pas? Et parler. Alors, on va parler de dividendes dans un instant parce que vous voulez nous faire du bien, mais on peut pas ne pas vous poser la question sur l'ambiance de marché à moins 3%, le CAC 40. On peut se faire du bien quand même, on peut mettre de l'adoucissant dans le propos, même quand le CAC perd 3%, ou vous êtes en panique aujourd'hui? Vous êtes au contact des clients, etc., CPRM?
Non,
vous êtes
non,
en panique
non,
là pas, c'est un... non, non, vous, êtes arrivé en... vous êtes en avance parce que vous êtes en panique ou pas là, Cyril?
Il n'y a pas de panique. D'accord. Si vous regardez les mouvements. C'est vrai que dans la zone euro, c'est difficile. Je ne vais pas reprendre ce que vous venez d'expliquer. Ça reste vrai. Les élections européennes, c'est mettre au Parlement européen des gens qui ne sont pas vraiment pour l'Europe. Donc, on rigole un peu, mais c'est quand même comme ça. Et c'est vrai que ça met un peu des tensions. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Japon, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ou dans les pays émergents, voilà, c'est un épiphénomène. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas du tout neutre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est neutre. D'ailleurs, la bourse aujourd'hui réagit. Enfin, je dirais assez naturellement au mouvement de taux. Pendant des mois, on disait les actions montent, quand les taux montent, finalement, c'est pas logique. Là, ce qui est très logique, c'est que si on pense qu'effectivement, il va y avoir des changements dans la politique française, que les budgets vont être plus difficiles, que les taux longs vont rester hauts, enfin, plutôt les spreads vont s'écarter par rapport au niveau d'endettement de l'Allemagne, toutes les entreprises françaises vont se refinancer beaucoup plus cher. Et donc, que du coup, la valorisation soit attaquée, c'est logique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça, ça va se passer? Est-ce que c'est pas de la surréaction? Je pense quand même qu'on est aujourd'hui dans la surréaction. Mais en attendant, ce qui se passe, hausse des taux, baisse de la valorisation action, c'est très logique.
Le CAC, depuis le début de l'année, il était en état hausse. Hein.
Oui.
Il recule désormais, là, avec la baisse du jour, on recule de 0,5% depuis le 1er janvier sur le CAC 40. Incroyable. Quand Wall Street est sur des records, c'est ça qui est incroyable. On a quand même un marché américain sur des records, encore hier soir à Wall Street, le S&P et le Nasdaq, et le CAC, lui, sur la semaine, perd 7%.
Oui, mais là où c'est un petit peu exagéré, c'est que si vous regardez les grosses entreprises du CAC 40, Hermès, Sanofi, Total et autres, c'est des gens qui sont très très peu impactés par le marché français, c'est des gens qui font la plupart de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc cet impact-là, c'est plus, entre guillemets, un risque pays qui est effectivement mis en cause, mais qui me semble encore une fois vraiment exagéré à court terme.
Bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure dans le club, rendez-vous à partir de 17h, on explorera les tendances de marché, on interprétera le message des marchés beaucoup plus en profondeur encore avec nos autres intervenants et Raphaël Thuin pour TQOM qui nous rejoindra également. Mais puisque vous êtes là en avance, on se fait du bien, c'est ce qu'on s'est promis. Un petit peu d'adoucissant, de douceur dans ce monde de brut. Il est compliqué, le marché. Oui, je ne sais pas comment me sortir de certains lancements. Vous êtes venu nous parler...
Adoucissant, c'est le mot du moment. Allez, on
dividendes,
prend
vous êtes venu nous parler de dividendes. Ça fait du bien de parler de dividendes pour l'actionnaire. Même quand le marché chute, il peut, l'actionnaire, se rassurer en pensant à sa dividende à venir.
Oui, alors c'est une des fonctions du dividende, c'est de dire aux gens, vous avez investi, on va vous donner 2-3%, ça dépend des endroits. En moyenne, 2% aux États-Unis, entre 3 et 4% côté Euro-Europe.
Et votre message, c'est le dividende n'est pas mort. On se fait peur, instabilité politique, tout ce qu'on veut. Le dividende, lui, est toujours là.
Oui, parce que ça a longtemps été utilisé comme un signal de bonne santé des entreprises, c'est-à-dire mon bilan va bien, je suis capable de payer mes fournisseurs, je suis capable de faire des investissements, je suis capable de produire, et en plus, cerise sur le gâteau, je détache un dividende. À la fin du fin, le cours monte ou baisse. Bon, il y a des gens pour en parler très bien.
Et pour l'investisseur, c'est un peu la veilleuse dans la nuit, quoi. Voilà. Il fait nuit, il y a une veilleuse qui est là.
Oui, ou c'est juste, vous avez le choix entre un actif qui fait du taux avec un coupon garanti et des actions avec un coupon non garanti. Donc, quelque part, quand vous avez des entreprises qui, sur le très long terme, sont capables de détacher un coupon qu'on appellera dividende pour les actions, c'est quand même très rassurant et c'est quand même très intéressant. Donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est, ce dividende, ces 10-15 dernières années, il a été beaucoup remplacé par des rachats d'actions, principalement sur les entreprises américaines, principalement sur les valeurs technologiques américaines. Et on s'est rendu compte, on a fait une petite étude assez marrante, depuis fin 2022 jusqu'à fin mai 2024, il y avait avant dans les secteurs information, technologie, communication et on va dire consommation non courante, on est obligé de mettre ce secteur-là parce qu'il faut mettre Amazon, hein, bien entendu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 106 entreprises sur les 220, sur les 205 dans ces trois secteurs qui ne payaient pas de dividendes. Or, depuis un an et demi, il y en a 8 qui se sont mis à en payer. Si vous mettez, si vous calculez la performance équipondérée, on a fait simple, chacun vaut la même chose, des 8 entreprises, le panier a progressé de 73%. Celles qui n'en payent pas, le panier a progressé de 44%. Donc, il semble, même
quand on rachète ses propres actions, ce qui fait monter. Alors voilà.
Alors attends, il y a deux choses différentes. Non, il sent que même le dividende auprès des valeurs de croissance a toujours cette fonction de signal sur mon bilan est solide, vous pouvez me faire confiance sur le long terme. Je ne parle pas des entreprises du Nasdaq qui ne font pas de profit, que beaucoup de gens aiment agrafer en tout cas leur performance pour dire voilà, on est en bulle, on n'est pas en bulle, celles qui ne font pas de profit gagnent, on est en bulle. Mais là, le signal il est très différent. Quand Meta et Alphabet, par exemple, qui ont racheté des actions pour 50, 40 milliards, 70 milliards ces dernières années, vont payer un dividende, c'est entre guillemets juste pour le fun. Elles n'ont pas besoin de faire ça.
Oui.
Financièrement, elles n'ont pas besoin. C'est juste le thème de je change de profil. J'étais une valeur de croissance qui avant regardait que mon bilan, éventuellement rachetait énormément d'actions, comme ça je fais croire à tout le monde que je fais beaucoup de bénéfices par action et puis on regarde un peu moins mon vrai résultat en delà. Bon, c'est une technique qui marche plutôt bien. Mais au-delà de ça, ces gens-là ont dit non, je veux changer de catégorie. Je ne suis plus une valeur de croissance, je suis une valeur mature. D'autres diront une valeur défensive et je suis une valeur de rendement. Et pour énormément d'investisseurs, ça a changé la donne. Et la performance des paniers, même si ça ne fait pas loi, on parle d'un an et demi, mais quelque part, c'est que je trouve ça quand même très très intéressant parce que ça veut dire que oui, la fonction du dividende est toujours regardée par les investisseurs. Et si vous allez en Asie, la plupart des fonds actions qui sont lancés en 75-25 très souvent. C'est-à-dire 25% de taux, 75% d'actions. Parce que l'investisseur asiatique, il veut du rendement. Quoi qu'il arrive, même dans son fonds action.
Donc l'idée, c'est que les rachats d'actions, parce que vous avez cité là des entreprises qui procèdent à des rachats d'actions absolument colossaux, les rachats d'actions ne feront pas mourir le dividende, loin de là. Le dividende apporte un surplus de potentiel aux valeurs, aux entreprises qui choisissent d'en verser.
Oui, alors les rachats d'actions qui sont massifs depuis 2014, on parle de 925 milliards, juste pour donner un chiffre, en 2024, pour les entreprises américaines, dont 47 font 80%, donc les grosses technologiques. Donc ces rachats d'actions sont très très importants. Il gonfle encore une fois les chiffres par action, qui du coup c'est quand même assez marketing, mais bref. Mais au-delà de ça, ils ne sont pas uniques maintenant, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire du rachat d'actions, mais aussi à détacher un dividende, et du coup envoyer un signal à la bourse qui est assez, aux investisseurs, ou à la bourse, qui est assez différent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, ça change la nature des valeurs qui le font, même si, pour prendre les deux plus gros exemples, Meta et Google, globalement, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça.
Quel est l'impact de l'environnement macroéconomique et politique aussi, ici par exemple en France, sur ces pratiques? Puis ça s'adresse à quel type de client, quoi?
Le client, comme j'ai dit, c'est un client qui fait du rendement. Je parle du client asiatique parce qu'on les connaît bien, on gère beaucoup pour eux et on sait qu'ils sont très attachés à ce type de rendement. Il y a même des fonds en Asie où vous avez un paiement de coupon trimestriel, même si vous n'avez pas perçu de coupon. Ça veut dire qu'il est directement pris dans la net asset value de votre fonds et votre fonds va perdre, entre guillemets, en actif net. Il va s'auto-distribuer, même s'il ne perçoit pas tout, parce qu'ils sont très attachés au coupon. Mais en France, il y a beaucoup d'assureurs vie, il y a beaucoup d'investisseurs très long terme qui sont très attentifs à ce qu'on appelle le rendement du dividende et donc à l'ensemble des entreprises qui sont capables de détacher un dividende. Ça vous change la nature d'une entreprise d'un point de vue investisseur et je pense que c'est vraiment important. Pour l'environnement, ça va dépendre du niveau de taux. Si vous détachez 3 à 4% de dividende et que votre taux long est à 2%, c'est une prime très très intéressante, d'autant plus que si vous faites ça, c'est que vous avez un bilan solide. Donc du coup, vous allez rentrer dans tous les portefeuilles corps. Si jamais les taux sont à 4 et que vous détachez un faible dividende, là, pour le coup, vous ne marquez pas de différence, il y a moins d'intérêt.